Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 5, proposé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, je vais vous parler un peu de pourquoi aujourd'hui on présente cet outil. Cet outil, c'est la mise à jour d'une calculatrice qu'on a déjà fait par le passé. Donc, le Comité Sport et Paris 2024 du MEDEF avait commandé en 2015 une première étude sur l'impact économique du sport en entreprise, donc réalisée par Goodwill Management. Et nous souhaitions profiter de l'élan de cette année olympique pour mettre à jour l'étude, mais aussi de mettre à disposition une calculatrice beaucoup plus précise et pratico-pratique qui puisse être prise en main par n'importe quel chef d'entreprise ou fonction RH ou CSE qui pourrait avoir toute utilité à avoir cette calculatrice. Je vais donc laisser la parole à Thomas et Paul de Goodwill Management qui vont présenter l'outil.
Merci Steven. Alors, rapidement, ça va se passer en deux parties un peu. Premièrement, je vais vous faire une petite explication un peu méthodo sur comment ça fonctionne, un peu derrière le masque. Et après, Paul fera la partie plutôt technique, comment fonctionne l'outil, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut rentrer comme données, etc. Sur quel principe ça s'articule, cette calculette? Deux choses. Quand on veut avoir un impact au travers du sport, il y a finalement deux leviers, deux piliers. Il y a d'un côté l'engagement des salariés. Est-ce qu'ils vont se mettre au sport ou non? Et dans quelle proportion? Et là, la proportion, c'est comment c'est calculé? C'est une unité qui est internationale, l'équivalent métabolique, mètre-heure-semaine. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est une unité qui est reconnue par tous. Donc, on va de l'activité modérée, avec par exemple une heure de jogging par semaine. Là, on voit en bas, c'est une activité de ce qu'on appelle 7,5 mètres semaine, jusqu'à 30 pour, si c'est très intense, avec, 3 heures de football par semaine. Voilà, donc en gros, c'est est-ce que je suis très actif ou non? Ça, c'est la partie salariée. L'autre partie, c'est l'engagement de l'entreprise. Et là, quel est l'engagement qu'on a calculé pour l'entreprise? On a finalement quatre niveaux d'engagement. Un, c'est un niveau qui serait plutôt de sensibilisation. Et quatre, qui serait un niveau d'investissement vraiment affirmé, financier ou de mise à disposition d'heures sur le temps de travail. Donc, rapidement sur ces niveaux, voilà ce qu'on a pu mettre dedans. Donc, ces quatre niveaux sont composés d'actions, du niveau 1 au niveau 4, à chaque fois c'est compris l'un dans l'autre, donc le 2, il y a le 1 dedans, etc. Et la différence qui est notoire sur le 3 et le 4, c'est quasiment les mêmes, excepté la façon dont on appréhende les choses. Sur le niveau 3, c'est on met des créneaux dédiés à la pratique d'une activité sportive pendant les heures de travail. Mais c'est externalisé, c'est-à-dire l'entreprise va payer, subventionner des heures de sport dans une salle de sport, par exemple, extérieure. Et le niveau 4, c'est internaliser le sport, c'est-à-dire pouvoir mettre en place une salle au sein de l'entreprise où les salariés peuvent faire du sport. Les trois modèles qui sous-tendent la calculette qui va vous être présentée, ce sont les modèles donc salariés, société civile et entreprise, ou entreprise, on l'appelle aussi productivité, voilà, c'est un peu la même chose. On va commencer par le modèle salarié. Le modèle salarié, comment il travaille? On s'est dit, qu'est-ce que ça engendre d'avoir une activité physique? Ça a deux impacts, deux améliorations notoires. C'est d'un côté une amélioration mentale et l'autre physique. On se sent mieux et physiquement et mentalement. Et après, comment on a fait pour arriver, passer de l'extrême gauche là à la droite sur les choses en bleu? C'est on va financiariser une partie de ces impacts et les autres, c'est les quantifier. Donc, les financiariser, qu'est-ce qu'on a financiarisé? La diminution des dépenses de santé. Eh oui, vous faites du sport, vous êtes moins malade, vous achetez moins de Doliprane, que sais-je, voilà. Vous êtes moins malade, vous avez moins d'arrêts de travail. Et là, dans les arrêts de travail, ce qu'on calcule pour un salarié, c'est finalement la carence, qui parfois n'est pas prise en charge par une mutuelle. Deuxième chose, c'est plutôt quantifier. Donc là, on a l'allongement de la durée de vie. Vous faites du sport, les études, en gros, là, on a fait une revue de la littérature, hein, là-dessus, c'est vous avez plus d'un an de durée de vie en plus si vous faites du sport. Et en plus, vous vivez plus longtemps et en meilleure santé, vous êtes moins dépendant. Et voilà, ça, c'est les deux choses, recul de l'âge de la dépendance et la durée de vie qu'on quantifie. Après, il y a le modèle donc société civile qui est un peu le pendant macro du côté salarié, du modèle salarié. Là, ce sont les mêmes items, sauf qu'il y a en plus la diminution du risque de mortalité précoce. C'est la seule chose qu'on a rajoutée. Pourquoi on le rajoute ici? Bah, parce qu'en fait, d'un point de vue individuel, je m'en fiche de savoir si j'ai une mort précoce ou pas. Je veux juste vivre plus longtemps. C'est ça que je souhaite, c'est vivre plus longtemps et en bonne santé. Mais l'intérêt pour le côté macro, pour la société, c'est on l'a approché comment sur cette mortalité précoce? On se dit, les gens qui, du coup, meurent plus tard, vont consommer plus et cette consommation génère de la richesse. Voilà, ça c'est l'approche qu'on a eue. Donc c'est des coûts évités ou des bénéfices. Et le dernier modèle sur lequel on a travaillé, c'est le modèle qu'on appelle entreprise ou productivité. Voilà comment ça fonctionne. On se dit, OK, deux choses sur la productivité, quantité et le coût. D'accord? Sur la quantité, comment ça peut être modifié avec l'efficacité d'un salarié? Cette efficacité, on relève finalement trois choses. On se dit, il y a la motivation qui va améliorer l'efficacité d'un salarié. La sérénité, l'aptitude physique. La motivation, on l'a intégrée comment? On l'a intégrée en se disant, OK, ça, les études disent qu'il faut plutôt le voir sous l'angle du coefficient de pondération. Finalement, si je suis en burn-out, bah, je ne peux plus travailler. Si je suis, par contre, je fais du sport et je suis hyper en forme et intellectuellement, je suis au top, bah, voilà, je suis très efficace. Donc, c'est plutôt un coefficient de pondération. Sur la sérénité, en fait, le corollaire, c'est le stress. Donc, moins vous êtes stressé, donc plus vous êtes serein, et plus vous êtes efficace. Et l'aptitude physique, là, il faut l'entendre comme pas Schwarzenegger qui serait très très fort et très très avec une grosse musculature, mais plutôt, si je fais du sport, je suis moins malade, j'ai donc une aptitude physique qui est meilleure. Donc, c'est au sens de j'ai une occurrence d'attraper une maladie plus faible. Et puis, pour absentéisme et turnover, là, même niveau qu'efficacité, on revient sur ces mêmes items qui sont motivation, sérénité et aptitude physique. Dernière chose pour faire le lien avec l'aptitude physique et ces questions de maladie, en fait, comment on a calculé ça derrière, finalement, cette occurrence? On a fait une revue de la littérature sur comment ça fonctionne. Et en général, en médecine, ce sont des fonctions dose-réponse qui sont utilisées, ces fonctions qui sont de type logarithmique, là on le voit. Et c'est le lien entre, vous voyez, en bas, en abscisse, donc mon activité sportive, en ordonnée, le bénéfice potentiel que j'en tire à faire du sport. Et si je passe de inactif à finalement actif, même si c'est modéré, mon bénéfice est très grand. Parce que je mets le corps en activité. Et après, on voit que bon, si je suis très actif, c'est un peu moins. Mais voilà, donc tous les modèles qu'on va voir par la suite sur la maladie, sur les maladies, ce genre de choses, reposent sur ces fonctions dose-réponse et qui sont recalculées à chaque fois le maximum et le maximum de bénéfices qu'on a trouvé dans la littérature et la fonction est recalculée pour chaque maladie. Voilà. Je laisse la parole à Paul pour la présentation du modèle.
Ça marche, merci Thomas. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet et en particulier donc dans la calculette Excel que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de télécharger auparavant. Et si ce n'est pas le cas, voilà, je sais que le lien est disponible. Donc l'idée là, c'est vraiment de vous présenter un petit peu comment utiliser cet outil, comment les grandes étapes qui ont été explicitées par Thomas se déclinent dans cet outil. On va essayer d'être exhaustif et de rentrer dans le détail sans trop en faire non plus. Pour commencer, je me rends dans l'onglet « Données d'entrée » qui, comme son nom l'indique, permet à l'utilisateur de renseigner un certain nombre de données propres à son activité qui vont permettre à cet outil de vous ressortir, de ressortir des résultats qui seront vraiment personnalisés. Donc, en premier lieu, vous avez la possibilité de renseigner le secteur de votre entreprise. Donc ici, on est parti sur une entreprise de service, le nombre de salariés, parmi eux, le nombre de salariés qui font déjà du sport. Ça, il vaut mieux renseigner une valeur estimée que zéro parce que vous l'avez vu avec la fonction dose réponse, l'intérêt le plus gros que l'on a au niveau du gain, que ce soit sur les aptitudes physiques, sur l'occurrence des maladies, également sur le bien-être, c'est toujours l'idée d'une relation logarithmique. Donc l'intérêt est toujours de mettre les gens au sport. Et vraiment, c'est le fondement de ce modèle, c'est de convertir le plus de personnes possible. Et donc forcément, si vous mettez zéro, on va avoir tendance à surestimer le nombre de personnes à convertir, alors qu'il y en a sûrement déjà qui font du sport dans votre entreprise. Également le nombre d'heures travaillées et le nombre de sites de production. Ça, c'est le cas voilà, des entreprises qui auraient plusieurs localisations parce qu'on souhaitait prendre en compte le fait que pour certaines organisations, peut-être qu'il va être décidé d'implémenter une politique sportive dans un site test, par exemple, et donc les actions ne vont concerner que X% des salariés. Donc voilà, on ne veut pas extrapoler les résultats à l'ensemble. Donc de renseigner ce paramètre permet de prendre ça en compte. Enfin, quelques données financières qui permettent de traduire notamment les bénéfices engendrés sur le modèle productivité en euros sonnants et trébuchants. Et la dernière étape, c'est pour faire le lien un petit peu avec cette histoire du nombre de sites, c'est de savoir combien d'actions sont déjà mises en œuvre. Peut-être que parmi les actions qui peuvent être mises en place et qui ont été identifiées dans le cadre de cet outil, certaines sont déjà mises en œuvre dans l'entreprise. Et donc, pour ne pas, encore une fois, maximiser des résultats de façon erronée, eh bien, vous pouvez sélectionner comme ça que, par exemple, il y a déjà un site qui dispose de douches et que ça concerne 30% des salariés. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée de cette page, c'est vraiment de vous permettre d'affiner et de personnaliser les résultats qui vont s'afficher dans l'onglet « Tableau de bord ». Et donc cet onglet, d'ailleurs, eh bien, je vais m'y rendre. Donc, vous voyez qu'il donne quand même pas mal d'informations, il y a pas mal d'infographies. On va détailler ça ensemble. Donc, si je vais sur la partie gauche, là, vous avez en fait les deux dimensions dont a parlé Thomas et sur lesquelles vous pouvez finalement jouer dans le cadre de ce modèle. En premier, donc, vous avez l'intensité de la pratique sportive des salariés, donc APS, activité physique et physique et sportive et le niveau d'investissement. L'intensité de l'APS, elle va avoir plutôt tendance à accroître les gains par salarié. C'est-à-dire que sur cette courbe dose-réponse qu'on a vue précédemment, on va se placer en fait au fur et à mesure de plus en plus haut. Donc on va augmenter les gains par salarié, tandis que le niveau d'investissement de l'entreprise va plutôt avoir tendance à accroître le nombre de salariés convertis. Forcément que si on met en place des actions de sensibilisation, on va réussir à convaincre un faible nombre de personnes. Tandis que si on va sur des niveaux qui intègrent un petit peu plus d'actions, et notamment des actions, un investissement financier, de la mise à disposition de matériel, etc., on va convaincre un plus grand nombre de personnes et c'est ce que reflètent ces niveaux d'investissement. Vous voyez par ailleurs, toujours pour rester dans cette partie gauche de l'outil, qu'à chaque fois que vous sélectionnez un niveau, les actions qui sont concernées par ce niveau sont affichées juste en dessous. Ces niveaux, on les a construits de façon à ce que les actions qu'ils recouvrent soient au moins sans impact l'une sur l'autre. si possible complémentaires. Par exemple, si vous mettez en place un parking vélo et qu'en plus vous mettez en place une douche, et ben là, vous allez réussir à plus facilement convaincre des salariés de venir au travail à vélo. Donc voilà, il y a des actions comme ça qui, mises ensemble, font d'autant plus sens. Et on a pris en compte cette complémentarité des actions dans la définition des différents niveaux. Après, vous pouvez dire que ces niveaux-là ne vous conviennent pas. Et c'est pourquoi vous avez la possibilité de sélectionner un niveau personnalisé et de sélectionner vous-même les différentes actions que vous souhaitez mettre en place et en l'occurrence que vous souhaitez tester dans l'outil. Donc je vais me rendre maintenant dans cette partie centrale. Hein. Vous voyez, on a globalement, on peut dire comme ça, trois plages. Donc cette plage de plutôt sélection des dimensions, la plage du milieu qui va vous donner tous les résultats et la plage de droite, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc si on va sur la première ligne, le premier chiffre que vous avez, c'est le nombre de salariés convertis. Et globalement, voilà, c'est, on va dire, la source de notre modèle et de nos calculs. En particulier, c'est là-dessus qu'on va se baser pour multiplier l'ensemble des résultats individuels par le nombre de salariés convertis et obtenir un résultat global à l'échelle de l'entreprise. Ensuite, sur cette première ligne grise, on a regroupé ce qu'on appelle des informations générales. En fait, ce sont des informations, des résultats qui sont utilisés ailleurs dans le modèle. Par exemple, le taux d'absentéisme et le taux de turnover sont des données, des variables qui alimentent notre formule de productivité, de variation de la productivité grâce à l'activité physique et sportive. Mais comme ce sont des éléments qui, en tant que chef d'entreprise, voilà, doivent vous parler et dont vous savez qu'ils ont tendance à tirer plutôt le coût du travail vers le haut, et ben on a décidé de les afficher aussi comme des informations en tant que telles. Et par ailleurs, hein, aussi de retours qu'on a pu avoir sur des expériences qui ont été faites de mise en place de pratiques sportives dans le cadre du travail. Eh bien, la baisse du taux d'absentéisme et la baisse du taux de turnover sont très clairement des éléments qui sont ressortis. Donc, voilà, on les a affichés en tant que tels, et aussi parce que ce sont généralement des gains qui sont facilement observables suite à la mise en place de tels investissements. Ensuite, très simplement, on retrouve le pourcentage de pratiques, donc le nombre de salariés qu'on a convertis sur le nombre total de salariés. Et enfin, deux informations qui là vont plutôt alimenter, je dirais, un argumentaire à destination des salariés. Bah, comme le disait Thomas, c'est la hausse de l'espérance de vie que l'on a calculée dans notre modèle, qui est tirée d'une étude qui indique que la sédentarité, en fait, est associée à un risque accru, à une baisse de l'espérance de vie de 12,2 mois. Et donc ici, finalement, c'est cette sortie de la sédentarité que l'on a quantifiée et à laquelle on a appliqué le principe de notre courbe dose-réponse. Donc c'est pour ça que, par exemple, si je passe sur une activité très intense, je vais approcher de ces 1 an de hausse de mon espérance de vie, tandis que si je suis sur une activité plus modérée, eh ben, l'impact forcément va être un petit peu en deçà. Enfin, la baisse du risque de mort prématurée, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, d'après un rapport de l'INSERM, l'activité physique régulière entraîne une baisse de la mortalité précoce de 29 à 41%. Et dans le cadre de notre modèle, par un principe de prudence, c'est la valeur de 29% que nous avons retenue. Et là encore, on y appliquait le principe de la courbe dose-réponse pour rendre compte du fait que, au regard de votre intensité de pratique, vous allez atteindre une certaine proportion de ce gain maximum. Voilà, donc en fait, toujours par principe de prudence, ce que nous donnait la littérature, nous l'avons pris comme un maximum pour ne pas voilà, maximiser les gains. Donc je vais, si vous me suivez encore jusque-là, je vais maintenant aller sur les deux prochaines lignes, donc le modèle salarié et le modèle société civile, qui sont en fait le pendant l'un de l'autre, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Puisqu'évidemment, comme on va parler d'amélioration de la santé, vous savez bien qu'en France, on a voilà, la chance de bénéficier d'une bonne couverture sociale. Et c'est pourquoi, par exemple, sur la baisse des coûts évités liés aux dépenses de santé, le gain est beaucoup plus important pour la société civile que pour les salariés. On est parti d'une répartition en fait, du budget santé à 80% pour l'assurance maladie, 7% pour les ménages et 13% pour les organismes complémentaires. Donc ceci explique pourquoi le plus gros de ce gain est pour la société civile. On a également dans la lignée une baisse des coûts évités liés aux arrêts maladie. Et ça, c'est comme le disait Thomas tout à l'heure, en lien avec la baisse des jours d'arrêt et donc de ce délai de carence que vous évitez. Côté société civile, eh bien, c'est le montant des indemnités journalières qui sont versées, qui est financiarisé, qui est évité ici. Enfin, pour le salarié, je dirais un petit peu en complément de tous ces calculs, on a affiché aussi la dépense sportive évitée parce que bah, clairement, on a des niveaux d'action qui vont intégrer, par exemple, au niveau 2, on a une négociation des tarifs à proximité. Donc, si l'entreprise ne peut pas, si l'entreprise, par exemple, ne peut pas encore financièrement payer l'abonnement à une salle de sport, eh bien peut-être qu'elle peut négocier au moins une réduction sur ses tarifs cette réduction se traduit dans le porte-monnaie donc des salariés. Donc c'est cette valeur ici qu'on affiche et il en va de même pour les niveaux qui intègrent tout simplement le paiement de la dépense sportive de l'abonnement à la salle de sport. Côté société civile, ce que l'on a en complément donc, de ces deux éléments que sont les arrêts maladie et les dépenses de santé, c'est des coûts liés au recul de l'âge de la dépendance. Donc, je vis plus longtemps et je vis en meilleure santé. Or, bah, la dépendance, c'est un coût. On a ici financiarisé ces dépenses évitées. Idem pour le recul de la mort prématurée. On vit plus longtemps, on consomme plus. À savoir qu'à chaque fois, dans ces calculs, on a pris en compte aussi la hausse de l'espérance de vie que l'on mentionne un petit peu plus haut. On a donc intégré à ce calcul les mois de pension de retraite en plus versés. Donc c'est bien un gain net qui est calculé. On n'a pas dissimulé comme ça une partie des coûts supplémentaires qui pourraient advenir. Et donc, je vais finir avec le modèle entreprise pour cette partie. Voilà, clairement, on aura fait le plus gros du modèle. Le modèle entreprise, donc ce gros chiffre qu'il vous donne, c'est la hausse de la productivité associée à cet investissement sportif, puisque, donc, vous l'avez compris, on a cette formule que l'on a définie. Et qui nous donne un gain de productivité par salarié que l'on rapporte ensuite dans la ligne gain total au nombre total de salariés. Donc forcément ici, si on convainc seulement 3 salariés sur 100, on va avoir un gain qui est plutôt marginal. Par contre, voilà, si je passe à un niveau où j'arrive à convaincre plus de gens, on peut approcher des 1% de hausse de la productivité. Et derrière, c'est ce gain de productivité que l'on va traduire en un gain financier sur la base du coût du travail. Voilà, donc ici, on parle bien de la productivité du travail. Eu égard de notre donnée d'entrée, ici, on est dans une entreprise très travaillistique, hein, dans du conseil, où donc la majorité des coûts supportés par l'entreprise sont liés à cette masse salariale, eh bien, même un faible gain de productivité va se traduire par un gain financier positif. En l'occurrence, vous observez qu'il y a ici de renseigner un gain financier brut ainsi qu'un gain financier net. Le gain financier net, c'est le gain financier brut auquel on a retranché l'estimation que nous avons faite des coûts engendrés par l'investissement sportif de l'entreprise. Parce que, voilà, peut-être que certains ont déjà commencé à se poser la question. L'ensemble de ces actions, forcément, engendre un coût. Ce coût, on a souhaité, dans cette idée de faire quelque chose qui soit opérant pour des chefs d'entreprise, on a décidé de l'intégrer. Et donc ça, vous allez le retrouver dans l'onglet coût, qui est cet onglet dédié, et qui vous permet d'observer finalement l'estimation que nous avons faite. Alors clairement, on a été très transparent sur les calculs que nous avons mis derrière ces estimations. En fait, là-dessus, notre idée, c'était de se dire qu'il vaut mieux mettre un chiffre imparfait plutôt que de ne pas prendre en compte de coûts d'investissement et donc d'afficher un gain total qui serait énorme sans voilà, finalement avoir quelque chose de réaliste, puisque derrière, bah, s'il faut mettre en place une douche, s'il faut mettre en place, voilà, s'il faut faire venir un coach, etc., bah, c'est de la dépense, c'est parfois même de l'investissement. Et par exemple, pour des éléments comme les douches, comme l'abri vélo, qui sont des immobilisations, eh bien, on a appliqué une durée d'amortissement linéaire qui permet de prendre en compte finalement cet impact sur les années d'amortissement. Et c'est pour cela que vous avez également l'impact après amortissement dans cette idée de prendre en compte le coût, le gain total une fois que le gros de la dépense sera derrière nous. Donc voilà pour ces trois lignes dans cet encart central. Globalement, l'idée, c'est que ça vous donne un petit peu un outil clé en main de communication, à la fois auprès de vos salariés et également auprès, bah, voilà, de l'ensemble du board, pour communiquer sur des chiffres qui se traduisent concrètement sur l'activité et le résultat de votre entreprise. Le dernier élément que je souhaitais vous présenter, c'est plutôt un élément qui a valeur de vulgarisation. En fait, ici, on a intégré un modèle qui est un modèle donc capacité, opportunité, motivation, qui est tiré des travaux de trois chercheurs qui ont identifié trois clés du changement de comportement. Parce qu'en fait, quand on parle de convertir des salariés au sport, on se rapproche vraiment de travaux qui ont été menés sur, par exemple, l'arrêt du tabagisme, sur la lutte contre la sédentarité, et qui voilà, se sont attachés à déterminer les déterminants d'un changement de comportement. Et là, nous, on souhaitait quand même intégrer ces éléments-là parce que on souhaitait vraiment faire ressortir le message qu'il ne faut pas seulement s'attacher aux aspects individuels. C'est-à-dire que si on ne fait que de l'incitation, que de l'affichage, de la sensibilisation et du renvoi finalement à la responsabilité individuelle, eh bien, on met dans l'ombre le reste les autres déterminants, en l'occurrence la capacité et l'opportunité, on va atteindre un résultat qui est beaucoup moins pérenne et beaucoup moins probant. Ici, donc, la motivation, ça désigne la volonté vraiment de l'individu. La capacité, c'est la capacité à la fois physique et intellectuelle. Donc, c'est est-ce que l'individu a les informations nécessaires? Est-ce qu'il sait s'il se met au sport, quels exercices faire, comment s'y prendre? Et l'opportunité, c'est plutôt l'ensemble des facteurs extra-individuels. Donc, ça va avoir trait notamment à l'environnement, mais même l'environnement physique. Où est située l'entreprise? Est-ce qu'on a mis en place une salle de sport? Est-ce qu'il y a des salles de sport à côté? En fait, cette opportunité, elle permet de prendre en compte ces facteurs extra-individuels. Et finalement, vous voyez que si on sélectionne par exemple un niveau 1 qui est plus sur de la sensibilisation, eh ben certes, je vais peut-être réussir à avoir un peu de motivation, je vais peut-être réussir à donner, faire passer des messages clés qui permettent aux gens de se sentir plus en capacité intellectuellement de se mettre au sport, mais je ne vais pas créer l'opportunité. Et donc clairement, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'est d'aboutir à un niveau un panaché d'action qui soit équilibré sur ces trois leviers, sur ces trois déterminants du changement de comportement. Et un dernier élément qui va aussi me servir de mot de conclusion, c'est que toujours dans la lignée de ces programmes, voilà, vraiment d'analyse comportementale et d'analyse du changement de comportement, quelque chose qui ressort, c'est l'importance de la co-construction et donc de co-construire, et qui démontre en fait que de co-construire des programmes dans le but d'amener un changement de comportement, c'est bien plus efficace que de les amener comme ça de façon verticale. Donc finalement, dès même la définition des actions que vous souhaitez mettre en place dans votre entreprise pour favoriser la pratique sportive, eh ben, intégrer déjà des salariés, des représentants du personnel pour finalement avoir un changement qui est plus partagé et qui derrière sera donc plus pérenne. Voilà, comme là on est dans le partage de l'outil, c'est vrai qu'après vous l'aurez, vous n'aurez pas forcément les consultants en face pour vous répondre. Un élément qu'on a souhaité prendre en compte dans le calcul des coûts, c'est cette valorisation du temps aménagé sur le temps de travail. Donc si votre entreprise aménage des créneaux à ses salariés pour qu'ils fassent du sport, on a pris le parti de calculer combien ça allait coûter, comme si c'était une perte nette finalement. Cependant, on peut se dire qu'effectivement, si on libère un créneau sur le temps de travail, mais finalement, peut-être que la charge va être re-répartie, peut-être qu'il va y avoir un système de rattrapage. Donc finalement, ce paramètre-là, on l'a intégré, mais vous pouvez tout à fait je dirais, l'éliminer en désélectionnant. Donc c'est cette action-là, aménagement de créneaux dédiés à la pratique sportive. Donc voilà, je voulais juste amener cette petite nuance sur le fait qu'il est tout à fait possible de paralyser cet aspect-là pour avoir un chiffre qui peut-être correspondra plus à la réalité de l'entreprise. En tout cas, nous, on avait vraiment fait ce choix de maximiser le coût global que ça peut avoir.
Merci beaucoup, Paul. Bah, on peut aussi dire en complément que c'est un moyen d'investir dans votre RSE, d'améliorer vos résultats vis-à-vis de votre déclaration de performance extra-financière si vous y êtes soumis. Donc voilà, ça vient répondre à plusieurs cases. Il ne s'agit pas qu'un investissement pour les salariés. Il y a aussi vraiment, d'où l'objet de ce webinaire aussi, de cette étude. Vraiment un impact pour l'entreprise et en entreprise. Pour l'entreprise, bien évidemment, pour ses comptes, et pour le salarié aussi, pour sa motivation, son investissement, comment il se sent vis-à-vis de son entreprise. Donc, c'est pour ça que je parlais de RSE. C'est un moyen, c'est un levier de développement, en tout cas, de la marque employeur. Donc, bien évidemment, si vous avez besoin d'une présentation au sein de votre fédération, il n'y a aucun souci.
Est-ce que, en ce qui concerne l'absentéisme, le ressenti du bien-être pour les collaborateurs, est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à quantifier
Du coup, pour l'absentéisme, voilà, on a clairement une quantification qui a été faite. En fait, donc ici, derrière l'absentéisme, ce qui se gage, je vais peut-être revenir rapidement sur
14.
nos. Ouais, c'est à 7-14, exactement. Donc, sur l'absentéisme, on a calculé, en fait, par rapport à l'ensemble de ces pathologies. Donc, là, c'est vraiment pour rentrer dans le détail. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de la courbe dose-réponse. En fait, derrière, il n'y a pas une courbe, mais il y en a plusieurs. Et celle qu'on vous a montrée, c'est un peu la courbe
Générique.
générique. En fait, nous, on est parti d'une analyse de la littérature, d'une revue de la littérature qui faisait le lien entre l'intensité de la pratique sportive et la réduction du risque de contracter un certain nombre de pathologies. Et là même, vous êtes au niveau de détails supérieur, parce que par exemple, là, on voit cancer, mais derrière, il y avait plusieurs cancers. Et en fait, à chaque fois, on prenait la réduction que nous donnait la littérature et on l'appliquait comme un maximum sur notre courbe dose-réponse. Et donc, en fait, au regard de la baisse du risque de contracter l'ensemble des pathologies mentionnées, eh bien, on a pu calculer un nombre de jours d'absence évités qui se traduisent donc en un absentéisme réduit en moyenne pour l'entreprise.
Comment est-elle évaluée au niveau de l'entreprise par salarié?
Oui, cette courbe-là, c'est ça du coup?
Bah, en fait, là, ce que je comprends, c'est d'un point de vue technique, je veux dire, on prend l'entreprise A, est-ce que on a 3 jours à
Ah
éviter
oui.
dans l'entreprise A? Je pense que c'est ça la question. Est-ce que ça a été vérifié? Là, ce qu'on a utilisé, ce sont comment dire, des calculs qui reposent sur toute une revue, voilà, scientifique académique. Qui derrière il y a des travaux empiriques, hein, il y a eu des tests qui ont été réalisés, mais on n'est pas allé, si c'est la question, on n'est pas, voilà, on s'est pas rendu dans les entreprises pour demander s'il y a eu une baisse, voilà, combien ils l'ont estimé, et on n'a pas fait des questionnaires, voilà, auprès
En
d'entreprises.
fait, ouais, en fait, pour amener un élément de précision, nous, on a appliqué, donc évidemment, quand on parle de baisse du risque, derrière, il faut aussi prendre en compte la prévalence. Donc, il faut savoir, nous, en fait, pour intégrer ce côté entreprise, on a pris la prévalence sur la population en emploi. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas pris le risque de cancer avant d'avoir 18 ans. On a pris vraiment sur la plage d'années où vous êtes en emploi. On a pris cette prévalence-là sur la population globale. On est parti aussi du volume global de malades et on a re-réparti. C'est pour ça que, en fait, évidemment, les résultats que vous fournissent la calculatrice, on ne va pas vous dire qu'il y a 3 personnes dans votre entreprise qui vont avoir un cancer. L'idée, c'est d'avoir un résultat qui fonctionne à l'échelle macro et qui est ensuite redécoupé à l'échelle de l'entreprise, donc au niveau micro. Donc, c'est un résultat moyen, en fait, mais qui intègre cette notion de prévalence sur l'âge de travailler.
Alors, on a une autre question qui nous vient. Est-ce qu'il y a des préconisations sur, par exemple, le nombre de séances d'activité physique et sportive en milieu pro pour avoir un impact sur telle ou telle pathologie?
Bah, alors là, la réponse, elle est finalement affichée à l'écran. En fonction de l'activité que je vais faire, donc là, c'est aussi la fonction qu'on vous a présentée tout à l'heure, la dose-réponse, là, inactif, modéré, actif. Si je suis très actif, au maximum, je réduis mon risque de cancer de 18%. Mais on n'a pas de recommandation sur il faudrait faire 3 séances ou 4 séances, où malheureusement, on n'est pas équipé pour.
En fait, ça, du coup, pour, pareil, de façon pratico-pratique, c'est généralement c'est ce qui est donné dans l'étude de base. On va dire, l'étude va nous dire que associé à tel type de pratique, la marche, une heure par jour, etc. Vraiment, c'est assez précis. Donc, si vous voulez ce niveau de détail, en fait, là, il faut aller vraiment dans étude par étude, pathologie par pathologie. Et en fait, nous, derrière, comme je l'ai dit, on a pris à chaque fois cette réduction comme un maximum. Donc, en fait, vous pouvez prendre les résultats qui sont fournis dans la calculette. En fait, dans la réalité, on sera toujours à peu près au-dessus. On n'a pas pris à chaque fois le maximum. C'est-à-dire que si on a une réduction de risque qui est associée à, 2 heures de natation par semaine, nous, on ne l'a pas appliqué à une demi-heure de natation. Vraiment, on a pris ça comme le maximum. Et donc, même quelqu'un qui ferait 10 heures de natation dans notre modèle, il accéderait à ce gain-là. Voilà. Ce niveau détail, il est dans les études et nous, on l'a utilisé à chaque fois comme un maximum pour éviter justement les risques de surpondération.
C'est un outil qu'on a voulu rendre accessible au grand public sans conditions particulières. La seule condition est de remplir le formulaire pour avoir le recevoir par mail. C'est la seule condition pour pouvoir utiliser l'outil, en tout cas le recevoir. En tout cas, sentez-vous libre de l'utiliser, de vous approprier les résultats.
Bonjour Steven.
Bonjour Mickaël.
Bonjour à tous, merci pour cette présentation, c'est un outil très intéressant. C'est vrai que ça fait 10 ans que je fais ça, moi, en entreprise, que je mets en place des séances d'activité pour notamment réduire les problématiques de TMS ou d'absentéisme. Je vais juste répondre à la question qui a été posée. On sait qu'aujourd'hui, 10 minutes d'activité physique adaptée quotidienne, donc je dis bien quotidienne, permettent d'avoir un effet bénéfique. Moi, je voulais vous dire pour échanger sur des expériences de terrain que j'ai pu mener moi dans le cadre de ma thèse sur le sport comme outil de gestion des ressources humaines, où on a mis en place des réveils musculaires, notamment chez Safran, depuis 10 ans. Et aujourd'hui, les collaborateurs qui font ces réveils musculaires tous les jours avec nos coachs sont absents moins de 10 jours dans l'année, contre 25 à 30 jours sur les autres ateliers où ils ne le font pas. Et là, on rejoint vos critères de motivation, parce que ceux qui font sont forcément volontaires, donc sont motivés. Voilà, il y a plein de lignes en compte. Et en fait, moi, ce que j'aurais aimé, ce que j'attends un peu plus sur la calculatrice, et qu'on a la problématique à chaque fois qu'on est face à des directeurs, notamment industriels, ou des gens qui vont prendre une décision, mais combien réellement je vais gagner. Et aujourd'hui, nous, on sait qu'on a un ROI sur de la main-d'œuvre à haute valeur ajoutée, hein, donc c'est dans l'aéronautique, dans la construction navale, parce qu'on est chez Safran, Naval Group et Airbus, on a un retour de pour 1 euro investi qui va osciller entre 2 à 3 euros derrière, sur le gain d'absentéisme. Ça fonctionne très bien, ce que je disais, sur les mains d'œuvre à haute valeur ajoutée, parce qu'un ouvrier de l'aéronautique, quand il n'est pas là, il coûte 400 euros à la boîte. Donc voilà, c'est par rapport à ça où moi j'attendais un petit peu plus. Mais après, c'est vrai que moi je suis à chaque fois sur des exemples concrets. Et là, on est sur une équation et qui inclut forcément des variations. De même sur. Alors nous, on intervient beaucoup sur la partie production et sur des industriels. J'ai le sentiment, moi, par rapport à ce que l'on fait, ça va plus correspondre à ce qu'on appelle au sport QVT, donc qualité de vie de travail, parce qu'on gère aussi des salles de sport en entreprise. Et là, on retrouve vraiment ça.
Alors, tout d'abord, sur le côté ROI, il y a quand même, dans l'outil, un côté retour sur investissement que vous vous retrouvez en bas. Et en plus, on a intégré les coûts pour qu'il y ait finalement un retour net en intégrant donc, les investissements potentiels. Et sur le côté, pour revenir sur la partie où vous faites mention sur le sport finalement d'entreprise et sur le terrain, ce qui nous était compliqué, c'était de pouvoir le faire assez largement pour que ce soit représentatif de l'ensemble des entreprises. Parce que une entreprise, vous voyez, dans le service, là vous parliez d'aéronautique, bon, il n'y a peut-être pas les mêmes problématiques. Et finalement, la demande qui était réalisée, c'était de faire un outil un peu universel, accessible à tous. Et donc, forcément, dans cette logique-là, on introduit un peu de vulgarisation, peut-être, on lisse les choses, parce qu'en effet, on doit pouvoir répondre à tous les secteurs. Et cette réponse, on l'a faite en se disant. Quelle est la meilleure réponse si on ne peut pas aller sur le terrain? Eh bien, c'est toute la littérature scientifique qui est assez foisonnante voilà, sur le sujet. Et là, en effet, on pourra toujours discuter, et c'est passionnant, on l'a fait nous sur des choix d'études, sur voilà, les chiffres et tout ça. Mais c'est vrai qu'au moins, méthodologiquement, c'est solide. Et derrière, les calculs, voilà, ils sont robustes. Mais c'est vrai que vous avez raison que certaines entreprises, et notamment bah, par exemple pour l'industrie, qui voilà, ont peut-être d'autres besoins plus travaillistiques, plutôt capitalistiques, eh bien, il y aura des demandes qui seront différentes. Par exemple, des usines avec des gens qui travaillent à la chaîne. Les questions, et c'était posé la question avec Paul, sur le côté TMS, par exemple, voilà, c'est des choses qui seront beaucoup plus à mettre en avant plutôt que, je ne sais pas, société de conseil, nous, qui, voilà, on fait des gestes répétitifs, mais voilà, c'est assez limité, on ne risque pas, vous voyez, de se blesser gravement. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le biais. Alors, je vais encore un peu aller plus loin. C'est pour ça que dans la partie données, en entrée, on choisit son secteur d'activité parce que derrière, on intègre des différences ou une granularité de ces secteurs au travers de plusieurs choses, notamment sur les accidents du travail qui sont différents par secteur d'activité. Et donc là, on approche un petit peu plus voilà, cette finesse, même si c'est vrai que bah, ça reste, encore une fois, un côté théorique, un modèle qui est une simplification de la réalité.
Nous avons, à la fin du premier semestre, réalisé un certain nombre d'outils, de services mis à disposition bah, de nos adhérents pour pouvoir faciliter l'entrée du sport en milieu professionnel. À date, on n'avait pas encore vocation à être, on va dire, publié plus largement. Néanmoins, sont des offres que vous pouvez retrouver facilement. Je prends par exemple avec le challenge inter-entreprise, faites vos jours d'entreprise. Vous pouvez par plusieurs biais, donc par la Fédération française du sport en entreprise, SPART, ou la Fédération française d'athlétisme, faire entrer le sport en entreprise. Donc par la Fédération française du sport en entreprise, il y a des challenges que vous pouvez mettre en place sur inscription avec vos salariés, donc permettant de vous mettre en compétition avec d'autres entreprises. SPART va être l'application de sport connecté pour votre challenge interne et à la fois dans le challenge inter-entreprise. Et du côté de la Fédération française d'athlétisme, certaines de leurs courses, donc ça vous pouvez le retrouver sur leur site internet, sont intégrées à ce challenge. Donc ça et encore bien d'autres types de courses, ce sont des moyens de faire rentrer le sport en entreprise. Il n'y a pas forcément, on va dire, des gros packages de cette manière. Vous pouvez prendre par exemple les cours de sport qui sont mis en place en entreprise, comme je sais pas, les cours de pilates, de yoga, les teams de running qui s'organisent entre midi et 14h. En fait, notre recommandation, c'est vraiment vous adapter à votre population de salariés et à quelles sont les tendances en interne. Il n'y a pas forcément de formule magique. Le mieux, c'est dans un premier temps, interroger vos collaborateurs pour savoir quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins et voir comment faire coïncider tout ça.
On peut renvoyer aussi, par exemple, au baromètre qui avait été fait par le MEDEF, justement, où on interrogeait des salariés sur ce qui les motiverait à se mettre au sport et qui nous a servi ici dans la hiérarchisation aussi des actions à mettre en place.
Ouais. Merci Paul de le rappeler. Donc il s'agit d'un baromètre qui est encore en cours de production, qu'on réalise en partenariat avec Paris 2024 dans la continuité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc avec sur le même principe un volet dirigeant et un volet salarié. À ce stade, on n'a pas encore de chiffres à révéler au grand public. Comme le baromètre se fait par vague. Donc là, on a déjà deux vagues qui ont été administrées. Donc, si je ne me trompe pas, on en a encore deux à trois autres au cours de production. On a également réalisé en 2021, au sortir du premier confinement, une étude sur la lutte contre la sédentarité. Donc, faire entrer le sport en entreprise, c'est aussi un moyen de lutter contre la sédentarité, mais les mots aussi qui ont pu apparaître issus du confinement par une nouvelle installation à domicile, pour le télétravail, mais aussi un moyen de lutte contre le risque psychique, car le sport est aussi un bon moyen de décompresser. On parle beaucoup de récupération physique, mais il ne faut pas exclure de tout ça la récupération mentale. Donc, moi, je n'aurais que des arguments pour vous dire d'interroger dans un premier temps vos collaborateurs, consulter vos RH et voir aussi quels sont les partenaires autour de vous qui pourraient vous aider dans cette dynamique. Je pense par exemple à la plateforme Solutions Sport Entreprise qui a été mise en place par l'Agence nationale du sport, qui vous permet d'identifier autour de votre entreprise, quel prestataire pourrait correspondre à vos besoins en fonction de votre localisation.
Merci à tous pour votre participation et bonne fin de journée.
C'était un podcast de l'Académie saison 5. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants et collaborateurs qui ont contribué à sa réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt.